Bonjour et bienvenue. Pour ce nouveau Click & Coffee, nous avons souhaité faire un point sur la situation des salles de sport fermées depuis le 5 octobre dernier. Rappelons également qu'elles auront été privées de 6 mois d'activité sur la seule année 2020. Pour évoquer cette situation exceptionnelle, j'ai le plaisir de recevoir le délégué général de l'Union Sport et Cycle, Virgile Caillier, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous.
Une première question, avez-vous une quelconque visibilité sur une prochaine réouverture des salles de sport aujourd'hui?
Alors ça c'est une bonne question, mais c'est déjà une question piège. Pour une première question, c'est pas facile. Nous n'avons pas de visibilité et vous doutez bien qu'actuellement, même le gouvernement est en grande interrogation sur la temporalité de reprise des activités en France. Néanmoins, on commence à engager un certain nombre de réunions, des réunions interministérielles, où on étudie les scénarios de reprise. On parle aujourd'hui d'une reprise en 3 phases qui pourra aller de la mi-avril à la mi-juin. Et ce sont les premières discussions. Alors, ça a quand même un caractère extrêmement positif puisque ça permet aux entreprises, aux gestionnaires de salles de se projeter sur une reprise d'activité. Et en cela, c'est déjà un très bon point.
Certains acteurs de la filière ont témoigné de leur incompréhension suite à la décision du gouvernement de fermer les salles le 5 octobre. Est-ce que c'est un avis que vous partagez?
Alors, on a effectivement été assez en colère et on a vécu comme un sentiment d'injustice cette fermeture. Alors, vous parliez d'octobre, pour les salles de sport, c'était même le dernier week-end de septembre en vérité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avions mis en place des protocoles extrêmement drastiques, des protocoles sanitaires, j'entends, qui nous étaient guidés, mais qu'on avait finalement travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé, avec le Haut Conseil à la Santé publique, avec le ministère des Sports. Et nous avions eu tout au long de l'été un retour progressif mais enthousiaste des usagers. Et on avait un certain nombre de statistiques qui nous permettaient de revendiquer le fait qu'il n'y avait aucun cluster. Malheureusement, sur la base d'intuitions scientifiques, nous avons été considérés comme des lieux à risque. Et finalement, nous avons été emportés avec l'eau du bain, si j'ose dire, en même temps que les restaurants, les salles de sport et les boîtes de nuit, parce que, pour une raison simple, c'est que nous n'avions pas de masque à ce moment-là. Il n'y avait pas de masque sport. Et de plus, le Haut Conseil à la Santé publique déconseillait et même était opposé à la pratique d'une activité physique et sportive avec un masque.
Justement, on l'a vu, certains acteurs, comme Decathlon, sans le citer, commencent à sortir des masques sport. Est-ce que vous pensez que ce sont ces masques qui vont devoir équiper les adhérents de salles dans les mois à venir?
Alors, écoutez, c'est intéressant cette transition entre les deux questions parce que vous l'avez compris, on a vécu cette refermeture administrative au mois d'octobre comme une véritable injustice. C'était très douloureux pour des salles de sport qui avaient déjà fermé pendant 3 mois au printemps, qui avaient à peine rouvert pendant 2 mois, et là on leur redemandait de fermer leurs portes. Voilà, grosse colère, et immédiatement on a essayé de se projeter en se disant mais qu'est-ce qui nous permettrait finalement de renforcer encore ces protocoles sanitaires. Et de là est partie l'idée de créer un masque dédié pour le sport avec des particularités à la fois de filtration, hein, puisqu'il faut bloquer le passage du virus, et de respirabilité pour permettre une activité physique intense. Donc, plusieurs industriels, vous avez cité Decathlon, mais on peut citer aussi Salomon, on peut en citer d'autres. Il y a une douzaine d'industriels aujourd'hui qui se sont mis à développer ce type de masque. Il y en a déjà 5 qui sont en production. Vous le voyez, ce sont des choses qui sont déjà d'ores et déjà engagées. Il fallait donner une forme de caution technique à ce masque. Et de ce point de vue-là, le ministère des Sports s'est engagé à nos côtés pour travailler l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, qui, il y a 3 semaines, a publié un guide qui désormais va faire référence pour les industriels dans la fabrication de ces masques barrières sport. Donc, pour répondre à votre question, je pense que oui, au-delà de nos protocoles sanitaires, si on rajoute en plus un masque, désormais, je considère qu'il n'y a plus d'obstacle à ce que nous puissions rouvrir parmi les premiers établissements lorsque les indicateurs sanitaires permettront la reprise des activités.
Pouvez-vous nous éclairer un peu aujourd'hui sur la situation économique des professionnels du secteur ?
Alors, quand on parle des salles de sport, nous, dans notre jargon, on évoque les loisirs sportifs marchands. C'est 6500 établissements sur le territoire, 70 000 salariés, donc c'est quand même un secteur qui est tout à fait représentatif, respectable. Je noterai que 80% de ces salariés ont moins de 30 ans, donc vous voyez, c'est un secteur jeune, dynamique, qui est en pleine progression. C'est un secteur qui accueille 17 millions de Français habituellement. En 2019, 17 millions de Français s'étaient retrouvés dans les salles de sport sur tout le territoire. En 2019, c'est un secteur qui avait généré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. Et malheureusement, en 2020, ce qu'on a constaté au terme des différents points de conjoncture et le bilan qu'on a pu faire à la fin de l'année, eh bien, ce secteur avait perdu plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires. C'est plus d'un tiers d'activité perdue sur l'année 2020.
Quels sont ceux qui vont le mieux résister selon vous? Parce que dans notre secteur, nous fonctionnons, enfin nous voyons des enseignes sous réseau. Il y a aussi les indépendants. Est-ce que vous avez une idée de la situation des uns et des autres?
Alors, c'est, je vais dire un peu des banalités, mais c'est ceux qui ont les surfaces financières les plus importantes qui vont le mieux traverser cette crise. Bien entendu, on a les aides de l'État, il faut le reconnaître, notamment l'activité partielle qui a permis un certain nombre d'acteurs de se mettre en sommeil, si j'ose dire, et puis le fonds de solidarité qui a vécu plusieurs niveaux et aujourd'hui, on discute avec le gouvernement, on est en train de finaliser le décret dit des charges fixes qui va nous permettre d'avoir un dernier niveau de soutien. Pour répondre à votre question, il y a des situations extrêmement contrastées. Vous avez évoqué les enseignes intégrées, des enseignes qui sont plutôt des formes de coopératives avec des franchisés. Mais il y a aussi une autre différence, c'est les salles qui sont en province et les salles qui sont sur les grandes métropoles et notamment sur Paris, avec des loyers extrêmement importants. Il faut savoir que les salles de sport, c'est tout de suite une emprise foncière assez importante. C'est plus de 1000 m² systématiquement et ça peut monter jusqu'à 3-4 000 m². Donc, des loyers et globalement des charges fixes extrêmement fortes. Donc, ceux qui vont s'en sortir, ce sont ceux qui auront les charges fixes les moins lourdes et ceux qui auront cette capacité à travailler en enseigne, en franchise, pour justement mutualiser et soutenir cette crise. Donc, en clair, les plus petits, les indépendants, c'est ceux qui vont souffrir énormément. Et malheureusement, on a constaté fin 2020 d'ores et déjà 300 à 400 salles de sport qui ont fermé leurs portes.
Justement, vous l'évoquiez un peu avant. Comment jugez-vous la politique d'aide du gouvernement Macron ?
Ah, écoutez, ça a été très progressif. À leur décharge, je crois qu'il faut considérer et prendre en compte l'envergure de cette crise. Il ne s'agissait pas d'analyser un secteur, c'était tous les secteurs. Tous les secteurs avec leur diversité, leur spécificité, leurs revendications. Je comprends tout à fait le travail de l'État qui était de trouver des mesures de droit commun qui permettent de satisfaire l'ensemble ou une immense majorité des acteurs. Donc le travail des syndicats professionnels comme le nôtre, des représentants, ce qu'on appelle des corps intermédiaires, eh bien c'était de faire valoir la spécificité de nos secteurs. Ce que l'on a fait avec les salles de sport, comme je le disais, ce sont des acteurs qui vivent sur des charges fixes extrêmement lourdes. On a pu obtenir un renforcement du fonds de solidarité, un renforcement des aides et cette éligibilité au dispositif dit des charges fixes, ça va permettre à un très grand nombre, une grande majorité de nos salles, de survivre. Mais pour répondre à votre question, le travail n'est pas fini. On attend du gouvernement désormais qu'il nous accompagne à la reprise. Parce que pour les salles de sport qui vivent sur un dispositif d'abonnement, il va falloir reconstituer sa clientèle. Ça peut prendre du temps, ça peut être 6 mois, ça peut être 12 mois. Donc, il va falloir qu'il y ait des aides qui partent en sifflet, qu'on puisse être accompagné, en tout cas au moment de cette relance, de cette reprise d'activité.
Justement, vous l'évoquiez, accompagner la reprise. Aujourd'hui, comment, d'après vous, les enseignes préparent-elles leur réouverture?
Alors, il y a deux missions en parallèle. Il y a une mission qui est une mission très financière, constituer des business plans, rassurer les investisseurs, aller chercher des appuis auprès des banques. Et effectivement, on fait plusieurs scénarios. Est-ce qu'on va reprendre fin avril? Est-ce qu'on va reprendre en juin? Est-ce qu'on va reprendre en septembre? Donc, il y a ce travail d'orfèvre, d'ajustement de business plan. Et puis, il y a un deuxième travail en parallèle qui est le travail de reprise, j'allais dire, effective, logistique. Et là, ce qui est très compliqué, là où l'équation devient presque insoluble, c'est qu'on n'a pas la date de reprise. Et sans la date de reprise, c'est très dur de planifier une campagne de communication, une campagne d'abonnement, la mise en place des protocoles sanitaires, l'achat du matériel. Donc, vous le voyez, pour les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires de salles, l'incertitude, c'est la pire des situations. Donc, on essaye tant bien que mal d'obtenir un maximum de garanties. Désormais, on a à peu près circonscrit la date de reprise entre mi-avril et mi-juin. C'est encore très, très large comme période. Progressivement, on va essayer de resserrer les taux pour apprécier un petit peu mieux nos dates de reprise et pour pouvoir s'organiser en conséquence.
Justement, vous l'évoquiez, il y a donc, selon vous, en lien avec le gouvernement, plusieurs scénarios de calendrier de réouverture?
Oui, tout à fait. C'est le travail que l'on mène avec eux. Ils nous font état. Donc, nous, on travaille beaucoup avec Bercy, on travaille beaucoup avec le ministère des Sports. On travaille également avec Matignon sur les cellules interministérielles de crise. On a des échos sur les réunions interministérielles. Ça vient de débuter. Hein. Vous avez probablement à l'esprit les annonces du public qui a évoqué une échéance de 4 à 6 semaines. Donc, comment tous les secteurs s'organisent, comment ils anticipent ces scénarios de reprise. Voilà, nous, on est derrière ça et on essaye de faire valoir des protocoles sanitaires, comme je le disais, extrêmement stricts, l'apport supplémentaire du masque barrière sport. Et bien entendu, on va revendiquer d'ouvrir le plus tôt possible, si possible, dès le mois d'avril.
Une dernière question, Virgile Caillé. Est-ce que vous avez le sentiment que cette période va aller vers une consolidation du secteur, de cette filière?
Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, on avait constaté depuis quelques années une évolution et probablement une reconstitution du secteur. Il est probable que la crise accélère ce processus de mutation et de concentration du marché. Il y a de plus en plus de rapprochements, de rassemblements, même d'indépendants qui se structurent sous forme d'enseignes. Et il est probable que cette union, parce qu'on s'est bien aperçu pendant la crise qu'il y avait besoin de travailler groupé, de travailler ensemble. Donc, je pense qu'il va y avoir une forme de concentration sur ce secteur, probablement, avec d'un côté les low cost, d'un côté plutôt le haut de gamme, et puis probablement des spécialisations de certains métiers qui permettront à certains secteurs de résister.
Au niveau européen, la France est encore un peu en retard du taux de pénétration de salles. C'est plutôt un signe positif pour le secteur, d'après vous, en dépit de cette crise?
Il y a un potentiel incontestablement. Vous le disiez très justement, on a encore un peu de retard par rapport à nos pays, à nos voisins européens. Mais en plus, effectivement, la crise a démontré à quel point les Français avaient finalement besoin d'entretenir une activité physique. Hein, on l'a bien vu sur le premier confinement. On a revu sur le deuxième confinement et les couvre-feux l'envie, l'irrépressible besoin des Français de courir, de faire un peu d'activité à domicile. On a vu le développement de tout un tas de solutions et d'offres de pratiques digitales. Donc oui, on pense que les sports de forme, le fitness, l'activité physique va s'inscrire de plus en plus dans le quotidien des Français. Alors, il y a des nouvelles formes de pratiques hein, qui vont se développer, notamment à domicile, notamment les pratiques digitales, mais ça ne remplacera jamais les pratiques dans les salles de sport. Les salles de sport sont devenues des lieux de convivialité, des lieux de vie, tout autant que des lieux de pratiques sportives. On pense qu'après, il y aura un rebond qu'on a du mal à estimer, mais il y aura un rebond extrêmement fort en tout cas, et on compte beaucoup là-dessus pour relancer ce secteur.
Avec une confiance retrouvée, d'après vous, des Français pour les salles de sport, sans crainte, sans peur?
Alors, c'est vrai, là, vous touchez du doigt un point sensible. On a été quand même stigmatisé. J'ai encore en tête le discours d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, je crois que c'était le 23 ou 24 septembre, où il précisait que les salles de sport étaient des lieux de contamination. Et donc, oui, ça a été un véritable préjudice. Donc, le gouvernement s'est engagé, nous a promis une grande campagne de sensibilisation et de communication autour de la reprise des activités physiques et sportives. On compte beaucoup sur cet engagement pour redonner une image positive aux salles de sport, et ce d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, que nous n'avions aucun indicateur chiffré sur un risque quelconque de cluster, bien au contraire. Et donc oui, il va falloir corriger le tir et redonner une image positive aux salles de sport.
Vous comptez, et ça sera cette fois-ci ma dernière question, vous comptez sur votre ministre de tutelle pour donner l'exemple, en fait, pour envoyer des signes forts?
Alors, on compte sur Roxana Maracineanu, donc la ministre en charge des sports. On compte sur Alain Griset, le ministre en charge des TPE-PME. On compte aussi sur Jean Castex, qui apprécie le sport, le Premier ministre, je le sais. Et donc, on espère qu'il y aura, comme vous le suggérez, un message ou un portage politique avec la présence de membres du gouvernement dans les salles de sport lorsqu'elles pourront rouvrir, pour montrer à quel point il est important de retrouver le chemin des salles de sport.
Virgile Caillé, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau Click and Coffee. D'ici là, n'hésitez pas à aller piocher des infos et visionner nos replays sur l'application MyCDRC. À très bientôt.